Vous écoutez France Culture.
Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier avec à la technique Jean-Richard Dufour.
Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les filles et les filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais non leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
Denis Marquet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, thérapeute, coach parental et romancier. En 1997, vous avez créé un cabinet de philosophe-thérapeute. Vous avez également connu un grand succès avec votre roman Colère, paru en 2001 aux éditions Albin Michel. Et vous publiez un livre, Nos enfants sont des merveilles, les clés du bonheur d'éduquer aux éditions Nil. Et vous avez mis en ouverture de votre livre ce très beau texte de Khalil Gibran, extrait du Prophète, que Lélie Anvar vient de nous lire. Parce qu'au fond, cette phrase « vos enfants ne sont pas vos enfants », ça résume bien tout votre propos dans ce livre.
Oui, tout à fait. Je pense que... Un être humain n'appartient à personne, donc dire « mes enfants », si c'est au sens de se les approprier, c'est déjà nier d'une certaine manière l'être unique qu'ils sont. Et tout le propos de ce livre consiste à dire qu'une éducation juste est au service de l'être unique qu'est l'enfant. L'être unique qu'est l'enfant, c'est une dynamique, c'est un élan, et cet élan, eh bien, il se manifeste par la croissance de l'enfant, par son évolution. Il s'agit de l'accompagner, mais rien de plus. Il n'y a pas trop à en faire dans l'éducation, c'est ça le point important. Un enfant, ça pousse tout seul, selon une dynamique qui lui est propre. Et je pense que la confiance, c'est d'abord quelque chose de très important.
Alors là, vous vous appuyez un petit peu sur ce qu'on a déjà entendu, notamment chez Françoise Dolto. Je pense que c'était une de vos inspiratrices.
Oui, Françoise Dolto m'a inspiré, notamment dans le fait qu'elle préconisait de parler aux enfants dès leur naissance, voire avant. Et je crois qu'il y a un type de parole, effectivement, qui touche l'enfant, quel que soit son âge. Un type de parole que j'appelle la parole existentielle, c'est-à-dire quand on parle à un enfant en se faisant le porte-parole de sa situation existentielle, des expériences qu'il traverse, et d'une manière qui peut l'aider, alors à ce moment-là, il entend. Il entend d'une manière qui reste mystérieuse, mais il entend. Et c'est Françoise Dolto qui a eu le grand mérite de découvrir ça, contre toute attente et contre toute connaissance scientifique. Elle l'a mis en pratique en thérapie. Elle a obtenu des succès thérapeutiques en guérissant des psychoses infantiles à des stades très, très précoces par la parole. Et j'avoue qu'elle m'a beaucoup influencé parce que moi-même, avec mes enfants, j'ai commencé par leur parler à un âge très, très précoce. Et c'est quelque chose de très... C'est une expérience tout à fait merveilleuse, très spectaculaire. C'est très spectaculaire de voir un tout petit qui écoute alors qu'il a quelques jours à peine, qu'il n'est pas encore capable de maîtriser ses muscles, ses réflexes, ses nerfs. Et à certains moments, quand la parole est vraiment juste, quand c'est une parole qui le touche et qui a de l'importance pour lui, qui a du sens, eh bien, il est capable de mobiliser toute son énergie dans une attention, une concentration. Qu'il ne garde que si la parole demeure juste, d'ailleurs. Et c'est comme s'il se nourrissait de quelque chose. Donc ça, c'est une expérience que je dois à Françoise Dolto et dont je parle pas mal dans ce livre.
Oui, ça allait contre donc un préjugé qui consistait un peu à penser que si un enfant n'est pas en âge suffisamment avancé pour entendre des arguments déjà un petit peu élaborés, ça sert à rien de lui parler. Il faut simplement donner des ordres sans donner d'explications.
Oui, alors la parole dont je parle peut toucher un tout petit bébé dès sa naissance. Donc déjà là, on ne comprend pas comment ça peut fonctionner parce que le cerveau n'est pas encore formé. Naturellement, il ne peut pas comprendre les mots, il n'a pas accès au langage. D'après les conceptions en vigueur sur le plan cognitif. Donc c'est un mystère en réalité. Et on vit dans une culture qui a un petit peu de mal avec le mystère. Quand on ne comprend pas quelque chose, on a plutôt tendance à dire que ça n'existe pas.
Voilà.
Et alors que si on fait l'expérience, on va s'apercevoir que peut-être il y a des choses qui existent et qui ne correspondent pas aux catégories intellectuelles qui sont encore les nôtres. Et ça permet justement d'ouvrir des horizons où on va chercher d'autres explications peut-être. Mais en l'état actuel des choses, ça reste un mystère. Comment une parole qui vient vraiment de l'être, parce que c'est pas n'importe quelle parole qu'un tout petit peut entendre, qu'un nourrisson entend une parole qui vient vraiment du fond de l'être et qui s'adresse à l'être.
C'est peut-être l'intonation qui joue un rôle important, je dirais le côté affectif qui accompagne la parole, plus que le contenu de la parole lui-même.
Alors moi je pense que c'est d'expérience, hein, que c'est le contenu, mais naturellement le contenu, quand c'est une parole qui vient vraiment de l'être, de la vérité de l'être qu'on est, du fond du cœur et qui s'adresse vraiment à l'être qu'on a en face de soi et dans ses besoins du moment, naturellement, cette parole s'accompagne d'intonations qui sont justes. Tout est juste. Mais de mon expérience, même avec les mêmes intonations, quand la parole cesse d'être juste ou inspirée, ou je ne sais pas comment dire, quand on rentre dans une parole plus ordinaire, plus banale, même avec les mêmes intonations, alors le nourrisson cesse de mobiliser son énergie dans l'écoute.
Mais donnez-nous des exemples de paroles qui ne sont ni des paroles, comme vous dites, ordinaires, de choses quotidiennes. Et j'imagine non plus que vous n'allez pas lire Kant ou Spinoza à des nourrissons en vous disant le contenu de ce que je lis va le marquer.
Naturellement, ce n'est pas une parole théorique. Quand un enfant a quelques jours... pleure la nuit alors qu'il est nourri, alors qu'on a pu vérifier qu'il était changé et qu'apparemment il n'a pas de douleur physique, comme c'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Il y a une certaine parole qui peut lui faire du bien, c'est une parole qui essaye d'accompagner la situation existentielle dans laquelle il se trouve. Donc ça suppose une sensibilité particulière à la situation dans laquelle il se trouve. Un enfant qui vient de naître, il a été arraché à un monde qui était un monde protégé, où il était nourri en continu, où le manque n'existait pas. Et puis il est entré dans un monde où la douleur existe, où il fait connaissance avec la dimension de la douleur, avec la dimension du manque, avec des êtres humains qui ne sont pas toujours dans l'empathie par rapport à ce qu'il ressent. Donc si on lui décrit sa situation, si on lui parle de ce qu'il vit en se laissant inspirer par la contemplation de là où il est, à ce moment-là, c'est une parole qui lui fait du bien parce que c'est comme si il ressentait comme un contact d'être à être, comme s'il cessait d'être seul et abandonné dans cette situation existentielle qui est la sienne.
Voilà, et ça ne passe pas donc, comme on a longtemps pensé, qu'avec le geste, parce qu'on savait qu'un geste pouvait rassurer, consoler, etc. Mais vous dites aussi que l'explication, donc de dire à un enfant, par exemple, qui souffre d'un traitement, de lui expliquer que ce traitement, c'est bien pour lui, que ça va le guérir, ça peut donc avoir une efficacité aussi importante que le geste de tendresse, le baiser qui va accompagner cette parole.
Absolument, pour des raisons qui restent mystérieuses, mais c'est la même chose quand on doit laisser un bébé, mettons, de 3 mois à une nourrice, si on lui explique ce qui se passe, pourquoi on part, y compris éventuellement comment on se sent en partant, qu'on va revenir, qu'on sera heureux de le retrouver, etc., qu'on va le laisser à quelqu'un en qui on a confiance, etc., eh bien, ça mystérieusement, ça lui permet d'accepter l'expérience et puis de la vivre aussi positivement que possible, alors qu'il n'a pas les moyens de comprendre intellectuellement.
Alors, j'espère que je ne vais pas vous choquer, Lélie et Denis, qui avaient des enfants tous les deux. Moi, je n'ai pas d'enfants, mais ce que vous dites là, je le mets en pratique avec des animaux. Donc, j'ai un chien, j'ai des chats, et c'est vrai que j'ai remarqué exactement la même chose. C'est-à-dire que quand je leur explique que je vais partir une semaine, parce qu'ils sont à la campagne, je suis souvent à Paris, que je vais partir, mais je reviens, qu'ils ne s'inquiètent pas et tout, ça se passe très bien. Et quand j'oublie de leur dire au revoir, ça se passe très mal. Et après, je sais qu'il y a eu des problèmes, etc. Donc, effectivement, mystérieusement, les animaux comprennent tout à fait ça, comme visiblement les nourrissons.
Bien sûr.
Ça vous choque pas ce parallèle ?
Pas du tout. Moi, ça me fait penser à des gens qui s'occupent de plantes en leur parlant. et qui, on dit qu'ils ont la main verte, mais ils ont peut-être aussi le verbe vert, si j'ose dire. C'est-à-dire que là, on est confronté tout simplement au mystère du vivant, Et si on est dans un paradoxe apparent, c'est qu'on a développé une conception très matérialiste des choses. Et même, même quand on garde une dimension spirituelle dans son explication du monde, en général, on coupe d'une manière très cartésienne. Hein, on sépare ce qui est de l'ordre de l'esprit et ce qui est de l'ordre de la matière. Et c'est pour cette raison que, par rapport à des êtres vivants comme des animaux, voire des êtres végétaux, ça nous semble très, très étrange qu'on puisse s'adresser verbalement à eux. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange. On a peut-être à apprendre...
Aussi des animaux, on connaît très très mal, hein, ce qui se passe dans la tête d'un animal.
Bien sûr, ça reste un grand mystère. On a peut-être à apprendre des peuples premiers pour qui tout ça est de l'ordre de l'évidence.
De l'évidence. Lélie Anvar, bonjour.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous avez mis en pratique tout ça avec vos enfants, ou est-ce que c'est quelque chose qui, dans l'éducation que vous leur avez donnée, n'était pas encore bien intégré?
Si, bien sûr. J'avais consciencieusement lu Dolto quand j'ai eu des enfants. Donc, effectivement, j'ai essayé de leur parler. J'ai fait tout à fait cette même expérience dont vous parlez, c'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé votre expression, qu'on a une conversation d'être à être. Mais les mots sont importants, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. Alors justement, à ce propos d'être à être, vous avez parlé du vivant, je pense que ça englobe aussi les animaux, bien qu'au début j'étais un peu perturbée, mais en fait, en y réfléchissant, là, pendant que vous parliez, je pense que ça comprend effectivement les animaux et les plantes. Est-ce qu'on n'est pas là, vous avez parlé de mystère, mais est-ce que, intuitivement, je sais bien que scientifiquement on ne peut pas répondre à cette question, est-ce qu'on n'est pas là devant précisément ce qu'on appelle l'âme ? Et que ce dialogue, il ne se fait pas avec le cerveau, puisque le cerveau n'est pas encore formé, il n'a pas encore les connexions verbales qui permettent évidemment à l'enfant de comprendre verbalement ce qu'on lui dit, je veux dire grammaticalement. Mais néanmoins, est-ce qu'on n'est pas devant, pour moi en tout cas, dans mon expérience, ça me faisait un effet d'évidence de l'âme. Je disais, visiblement, cet enfant a une âme, puisqu'il comprend ce que je lui dis, alors que son cerveau n'est pas encore connecté. Alors, voilà, votre intuition là-dessus. Je sais très bien que ce n'est pas scientifique.
Hein. Oui, naturellement. De toute façon, la science s'interdit de parler de l'âme. C'est sa méthode. Voilà. Et c'est aussi sa grandeur. Donc, on est au-delà de la sphère scientifique. Et rien ne nous oblige à demeurer à l'intérieur de la sphère scientifique.
Voilà. Alors, donc, est-ce que vous pensez que c'est juste, quoi, que cette intuition de l'âme chez les enfants se perçoit dès cette époque?
Et on peut appeler ça l'âme, effectivement, au sens où c'est un principe qui n'est pas réductible à ce qu'on connaît de la matière. C'est tout à fait possible. Mais après, qu'est-ce qu'on entend par âme?
Oui, je n'osais pas le dire. Il va répondre. Qu'est-ce que vous entendez par âme? Est-ce que c'est la psyché? Est-ce que c'est l'âme spirituelle?
Mais oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est là que je voudrais vous emmener. Finalement, qu'est-ce que l'âme quand on a une expérience des enfants et de l'éducation?
Ben moi, dans mes deux livres un petit peu théoriques, j'ai essayé de nommer à ma manière, en fonction de l'expérience que j'en ai, quelque chose que par ailleurs on peut aussi nommer âme. Pour moi, il y a en chaque être humain, et c'est un émerveillement de le découvrir chez un tout petit, chez un enfant qui vient de naître, voire chez un enfant dans le ventre de sa maman, il y a déjà un principe de croissance, un principe qui donne une direction et un élan que moi j'aime appeler désir, mais en un sens irréductible à toute dimension pulsionnelle. Et cette dimension du désir, c'est quelque chose qui donne le sens et la direction d'une vie d'être humain. C'est quelque chose que, en tant que thérapeute, je m'efforce d'aider les personnes qui viennent me voir à retrouver leur véritable désir, c'est-à-dire l'élan de la vérité de leur être. Et je crois qu'on peut effectivement appeler âme quelque chose qui tient à la vérité de l'être qu'on est, au sens où chaque être humain est un être unique. Et c'est là d'ailleurs qu'on quitte le plan des animaux, le plan des plantes. L'être vivant qu'est l'être humain a quand même une particularité, c'est que chaque être humain potentiellement peut manifester et éprouver l'être unique qu'il est. Et cet unique, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas réductible à la matière. Donc on passe dans un autre ordre. Un ordre qu'on peut appeler l'ordre de la spiritualité, peut-être, si on veut. L'ordre existentiel, moi j'aime bien l'appeler comme ça. L'ordre de l'âme, pourquoi pas.
Thank you.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie de Denis Marquet, à propos de son livre Nos enfants sont des merveilles, aux éditions Nil. Alors on a parlé un petit peu de la parole, et de le mystère de, effectivement, de cette parole que peuvent comprendre les nourrissons. Je voudrais vous poser une question que vous abordez largement dans votre livre, mais très directement. Quelle est la finalité de l'éducation pour vous ?
Alors la finalité de l'éducation aujourd'hui, on ne la connaît pas. La société ne la dit plus. Et ça, c'est le premier point qui me semble très important, c'est qu'aujourd'hui, en matière d'éducation, on est dans la cité des parents perdus. C'est-à-dire qu'on ne sait plus comment éduquer ses enfants. L'éducation, c'est un problème social avant tout. Dans toutes les sociétés qu'on connaît, sauf la nôtre, c'est la société qui dit ce que c'est qu'un être humain, donc ce que doit devenir l'enfant. Et donc, fixant un but à l'éducation, elle donne aussi un fondement à l'autorité et elle assigne un rôle aux parents, et particulièrement aux pères. Aujourd'hui, tout ça a disparu. On est dans ce qu'on appelle la postmodernité, qui est une société qui se caractérise essentiellement par le fait qu'on n'est plus d'accord sur ce qu'est un être humain. Et chacun étant libre de définir l'être humain comme il l'entend, eh bien, la société ne définit plus de but à l'éducation. Et du même coup, le but de l'éducation, comme c'est aussi le fondement de l'autorité, il n'y a plus de fondement à l'autorité et les parents ne savent pas quoi faire. Donc, dans Nos enfants sont des merveilles, je me permets de proposer un but qui fait de cette situation un petit peu difficile, où l'éducation est en crise, je ne suis pas le premier à le dire, une opportunité. Si la société ne dit plus ce que c'est qu'un être humain, si elle ne donne plus de but à l'éducation, c'est peut-être l'opportunité, enfin, d'éduquer un enfant en fonction de lui-même. Alors, en fonction de lui-même, quoi en lui-même ? Voilà la question. Non pas en fonction de son être pulsionnel, comme tente à encourager à le faire la société de consommation, qui fabrique de parfaits consommateurs, c'est-à-dire un être en qui la pulsion ne doit pas rencontrer d'obstacles, mais un être unique. Le but de l'éducation, pour moi, c'est clairement d'aider un enfant à vivre l'être unique qu'il est, sachant que, pour moi, le bonheur, c'est à la fois manifester dans le monde l'être unique que l'on est et éprouver aussi l'être unique que l'on est dans l'expérience du nouveau, dans l'expérience de la rencontre, dans l'expérience de l'altérité, etc.
Oui, donc vous rejoignez tout à fait l'idée moderne de permettre à l'individu de s'accomplir, de se réaliser, mais en lui donnant une certaine finalité aussi, qui n'est pas simplement effectivement la jouissance, le plaisir immédiat, parce que le bonheur, on le sait, ça s'apprend, c'est quelque chose qui demande un effort, c'est quelque chose qui demande de se poser certaines limites, d'accepter certaines contraintes. Et donc, au fond, on peut dire que le but de l'éducation, c'est d'apprendre un enfant à vivre pour être le plus heureux possible en fonction de ce qu'il est.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans la société actuelle, il y a encore deux siècles, il y avait des autorités de sens qui nous disaient quel était le sens de la vie, quel était le but de la vie. Aujourd'hui, elles ont disparu. Donc on en est arrivé à une espèce de relativisme où on a l'impression que tout se vaut. Mais si tout se vaut, rien ne vaut vraiment. Donc du relativisme au nihilisme, il n'y a qu'un pas que Nietzsche avait déjà bien diagnostiqué. Si rien ne vaut, au nom de quoi on va éduquer un enfant ? Et au nom de quoi soi-même on va s'auto-éduquer ? Au nom de quoi on va avancer dans sa vie ? L'individu roi, c'est le seul principe de notre société postmoderne et on ne peut pas poser une transcendance sauf à titre simplement individuel. Alors moi, ce que je propose, c'est de dire, à l'intérieur de moi, en tant qu'individu, tout ne se vaut pas. Il y a des choses qui sont de l'ordre de la pulsion, de la jouissance au sens le plus bas du terme, et puis il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de la vérité. Et les deux ne sont pas forcément contradictoires, mais on vit dans une société qui encourage l'individu à laisser toute la place à la dimension pulsionnelle.
Mais est-ce que la vérité dont vous parlez, c'est des vérités objectives, valables pour tout être humain, ou ce ne sont que des vérités subjectives, valables pour tel individu en particulier ?
C'est une bonne question, parce que dans la postmodernité, il est plus ou moins interdit implicitement de dire qu'il y a une vérité objective. Donc si je commence à dire que cette vérité-là est objective, je vais me faire taxer d'intolérance. Et de fait, c'est une bonne discipline que de se dire qu'il y a des vérités que pour la personne. Simplement, quand n'importe quel être humain vit l'être unique qu'il est, ça se voit pour tout le monde. Et quand il vit quelque chose qui est de l'ordre du conditionnement et qu'il n'est pas dans sa vérité, ça se voit aussi objectivement pour tout le monde. N'importe qui est capable de faire la différence entre un adolescent pulsionnel, qui est noyé par la pulsion, et un adolescent qui commence à sentir émerger en lui l'être unique qu'il est, et qui le manifeste dans le monde. C'est-à-dire que la manifestation de cette dimension est objective, mais en revanche, c'est purement intérieur à l'être humain. C'est-à-dire que chaque être est un être unique et personne ne peut dire à un autre être humain qui il est et qui il doit devenir.
Ça, j'ai bien compris. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a des lois universelles du fonctionnement de l'être humain, du rapport entre son esprit et ses passions, etc. Et si on lit les philosophes grecs de l'Antiquité, ils vous diront des choses sur l'être humain qui restent parfaitement valables aujourd'hui, ou un certain nombre de sages de toutes les traditions, aussi bien le bouddhisme que le confucianisme, que les traditions d'Occident, qui vous montrent qu'au fond, il y a un certain nombre de principes qui restent vrais, de lois, j'ai envie de dire, de la vie intérieure, de l'esprit qui reste vrai et qui fait que partout, sous toutes les latitudes, il faut apprendre à maîtriser certaines pulsions, que on sera vraiment heureux si on est capable de trouver un certain sens à sa vie et d'ordonner sa vie en fonction de ça, etc. Donc là, on est devant peut-être une certaine objectivité qui dépasse, je dirais, les interprétations culturelles qui ont été finalement rajoutées par-dessus tout ça, par-dessus ces intangibles. Est-ce que vous croyez à ça ou pas ?
Oui, bah ce que vous décrivez, c'est ce que j'aurais envie d'appeler la grammaire de l'accomplissement humain. C'est-à-dire que, quel que soit l'accomplissement humain, telle que soit la définition qu'on en donne et le but qu'on lui assigne, il y a dans toutes les traditions des règles formelles qui sont à peu près les mêmes. Et toutes les traditions se rejoignent sur des notions comme les traditions de sagesse, des notions comme le lâcher-prise, des notions comme une certaine maîtrise de sa dimension pulsionnelle ou passionnelle, etc., bien sûr. Et dans l'éducation, c'est quelque chose qui joue. Mais la question actuellement dans notre civilisation, elle est simple, c'est au nom de quoi on va inciter un enfant à limiter la dimension pulsionnelle. C'est-à-dire que, outre la grammaire, dans toute voie d'accomplissement, il y a un but, il y a un sens, et il y a une notion de l'être humain. Aujourd'hui, quelle notion de l'être humain on peut donner qui soit universelle ? Moi, j'en propose une pour sortir de ce dilemme entre le particulier et l'universel. C'est la notion d'être unique. Le paradoxe de la notion d'être unique, c'est que c'est une notion universelle. Chaque être humain est un être unique. Mais c'est en même temps une notion qui permet de respecter ce grand courant qui nous a tous influencés et qui pour moi est bon en lui-même, qui est l'individualisme. Mais ça permet aussi de sortir de l'impasse de l'individualisme. C'est-à-dire que, rien ne vaut universellement, tout vaut uniquement en fonction de moi. Oui, mais en fonction de quoi en moi ? En fonction de ma pulsion, et dans ce cas-là, je suis dans une impasse, ou en fonction de l'être unique que je suis et qui aspire à s'exprimer dans le monde, qui aspire à se donner aux autres.
Alors tout cela me rappelle quand même le discours et les réflexions d'un autre philosophe qui s'est passionné pour l'éducation. Je pense évidemment, Lélie, à Jean-Jacques Rousseau,
oui,
que vous connaissez bien et que vous avez lu.
Oui, et surtout qui est vraiment le grand penseur de l'éducation. On peut dire que, je parle sous votre contrôle, mais en fait, on peut dire que c'est le premier penseur de l'enfant comme être à éduquer, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, d'abord, la mortalité infantile était très importante et on ne donnait pas cette centralité à l'éducation de l'enfant comme un être à venir, comme un humain à venir. Et Rousseau, à ce titre, est quand même le père de vous tous, les thérapeutes spécialisés dans l'enfance, et de tous ceux qui ensuite ont tenté de réfléchir les questions de l'éducation. Mais avant de lire Rousseau, et on va voir que c'est en lien avec le petit texte que j'ai choisi de lire en premier, vous avez parlé, Frédéric, de bonheur. Je ne suis pas sûre que ce soit l'enjeu, et c'est très intéressant parce que, Denis Marquet, vous avez répondu par accomplissement. Et j'ai bien fait attention, vous n'avez pas une seule fois repris ce mot de bonheur. Car vous disiez le but de l'éducation, vous disiez, Frédéric, que le but de l'éducation serait de faire des êtres qui soient le plus heureux possible. Je ne suis pas certaine. Et vous avez répondu, Denis Marquet, le but de l'éducation, c'est de faire des êtres les plus accomplis possibles. Est-ce que être très accompli, c'est être heureux ? Ça,
moi, je pense que oui.
Voilà.
C'est-à-dire que le bonheur, c'est de s'accomplir.
Voilà, mais c'est vrai que c'est un bonheur d'un autre ordre.
Ce que dit Aristote, c'est on accomplit ses potentialités et on est pleinement heureux que qu'on accomplit ce qu'on a en potentiel.
Voilà, mais c'est peut-être,
c'est pas ce qu'on pense, Denis,
voilà,
mais
c'est peut-être un bonheur d'un autre
qui n'est pas
ordre,
le même,
quoi.
Qui n'est pas
voilà.
Le même pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est là, ça rejoint la notion d'accomplissement.
Voilà, et il faut définir peut-être le mot, effectivement, parce que vous diriez à un jeune adolescent, et je les connais bien pour les pratiquer tous les jours, c'est le but quand même de mon éducation, c'est que tu sois heureux. Il me dit, alors laisse-moi faire ce que je veux. Il vous répondra. libre, laisse-moi faire ce que je veux.
Mais c'est un point tout à fait capital, ça. C'est qu'effectivement, on pense actuellement le bonheur comme simplement la réalisation pulsionnelle.
C'est ça, voilà. C'est très
sans limite.
C'est pas du tout ce que je pense. Hein.
Bien sûr,
oui, évidemment,
naturellement.
Je sais bien.
Moi aussi, je le sais. Mais c'est ce qu'induit notre société. C'est-à-dire que la société de consommation n'a plus qu'un seul type humain qui vaille, c'est le type humain du consommateur. Et comme je le disais tout à l'heure, le consommateur, c'est celui en qui la pulsion ne rencontre aucune limite. Et le discours publicitaire nous incite sans cesse à enlever les limites, céder à la tentation, etc. etc.
Voilà.
Donc ça c'est une idée du bonheur qui nous est proposée. Et il y a une deuxième idée du bonheur qui nous est proposée en filigrane dans notre société, c'est « sois l'origine de toi », c'est-à-dire « montre que tu es heureux pour montrer le succès de ta vie ». Et c'est aussi une injonction impossible. On ne peut pas être l'origine intégrale de sa vie. Il y a de l'événement, il y a des rencontres, il y a de l'impondérable, et on ne désire pas être dans le contrôle total de tout ce qui se passe. Donc on nous donne une fausse image du bonheur, et on nous donne une injonction au bonheur. Donc pour moi, bonheur et accomplissement, naturellement, c'est deux choses qui se rejoignent parfaitement. C'est-à-dire qu'on est heureux à partir du moment où... Moi, je pourrais dire que j'ai été heureux dans ma vie en mourant, si je peux dire ma vie a parfaitement exprimé mon être, c'est-à-dire la vérité unique qu'est mon être.
Et c'est exactement ce que dit Rousseau sur le but de l'éducation. On ne songe qu'à conserver son enfant, ce n'est pas assez. On doit lui apprendre à se conserver étant homme, à supporter les coups du sort, à braver l'opulence et la misère, à vivre, s'il le faut, dans les glaces d'Islande ou sur le brûlant rocher de Malte. Vous avez beau prendre des précautions pour qu'il ne meure pas, il faudra pourtant qu'il meure. Et quand sa mort ne serait pas l'ouvrage de vos soins, encore serait-il mal entendu. Il s'agit moins de l'empêcher de mourir que de le faire vivre. Vivre, ce n'est pas seulement respirer, c'est agir. C'est faire usage de nos organes, de nos sens, de nos facultés, de toutes les parties de nous-mêmes qui nous donne le sentiment de notre existence. L'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années, mais celui qui a le plus senti la vie. Tel s'est fait enterrer à 100 ans, qui mourut dès sa naissance. Il eût gagné d'aller au tombeau dans sa jeunesse, s'il eût vécu du moins jusqu'à ce temps-là. Donc éduquer, c'est apprendre à vivre.
Oui, c'est très important, hein, parce que l'éducation actuelle, surtout avec les peurs des parents, est souvent axée sur la dimension de la survie.
Voilà, de conserver, comme dit
conserver
déjà,
la
conserver
vie.
L'enfant.
Voilà.
Oui.
Et, mais la vie, qu'est-ce que c'est ? La vie au-delà de la survie, c'est effectivement, moi, ce que j'appelle dans ce livre le désir. Le désir, c'est-à-dire, c'est un élan qui procède de l'être unique que l'on est. C'est l'élan de ma propre vérité. Et on est vraiment vivant quand on est relié à cette dimension, quand on est vraiment relié à son être.
Je vais vous poser une question par rapport à votre propre itinéraire. Nous, on s'est connus il y a une vingtaine d'années. Vous étiez donc un des premiers philosophes-thérapeutes de France. Et puis, vous avez donc ensuite eu des enfants. Est-ce que vous aviez déjà ces idées-là? Est-ce que vous auriez pu écrire ce livre il y a 15 ans, quand vous aviez déjà toute une vision philosophique personnelle de la vie, ou est-ce que c'est le fait d'avoir des enfants qui vous a amené à non seulement à vous intéresser à cette question de l'éducation, je m'en doute, mais aussi à avoir cette conception philosophique de l'être humain?
Ah ben c'est naturellement le fait d'avoir des enfants qui m'a influencé. D'ailleurs, pour une raison dont je parle abondamment dans Nos enfants sont des merveilles, c'est que nos enfants nous guident. C'est-à-dire que moi, mon expérience avec mes enfants, c'est que chacun d'eux m'a guidé et continue de le faire pour fabriquer le père dont il a besoin. Je ne suis pas du tout le même père avec chacun de mes deux enfants. Et chacun d'eux me guide pour que je devienne, au fur et à mesure de son évolution, le père dont il a besoin. Donc j'ai été vraiment transformé par chacun de mes enfants. Et c'est pour partager cette expérience que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire pour dire aux gens, aujourd'hui, on n'a plus de repères, la société ne donne plus de but à l'éducation, ni de sens. Les experts en éducation se contredisent en fonction de l'école de psychologie à laquelle ils sont inféodés. Donc on est perdu, mais c'est pas grave, parce que chaque enfant, si on, pour peu qu'on le contemple vraiment, qu'on voit l'être unique qu'il est et qu'on l'écoute, eh ben il saura nous guider. Et donc mes enfants m'ont transformé, et plus largement, c'est vraiment un élément essentiel de la philosophie que j'essaye de partager, c'est qu'il y a une connaissance qui a du succès depuis 2-3 siècles, c'est la connaissance scientifique, elle est fondée sur le fait que l'homme transforme le monde. L'expérience scientifique consiste à transformer les choses et on valide une théorie à partir du moment où on a réussi à transformer le monde avec cette théorie. C'est pour ça que la science actuelle débouche naturellement sur une technique et qui nous permet de transformer notre univers. Mais il y a une autre connaissance qui est une connaissance beaucoup plus existentielle et beaucoup plus intérieure qui consiste à se laisser transformer par les choses. Se laisser transformer par les rencontres, se laisser transformer par le contact expérientiel avec le monde, ce dont Rousseau parle très bien d'ailleurs dans le texte qu'on a lu. Et cette connaissance existentielle qui consiste à se laisser transformer par l'autre, pour moi, elle est tout à fait essentielle et... Si on la perd, on perd le sens de la vie, on perd la vie elle-même. Parce qu'on est vraiment vivant à partir du moment où on se laisse toucher et transformer par le monde et par les autres.
Lorsque vous avez fait comme Jean-Jacques Rousseau, en mettant merveilleusement bien vos théories en pratique, en abandonnant vos enfants?
Eh bien, j'y ai pensé, mais non.
Justement, d'ailleurs, c'est très... J'aime beaucoup votre titre. D'abord, il y a le mot merveille dedans. Nos enfants sont des merveilles. Quelquefois, on éprouve... Quelquefois, on éprouve ça un peu douloureusement, il faut quand même le dire en tant que parent. Et puis surtout, c'est un essai sur le bonheur d'éduquer. Alors, c'est une très bonne nouvelle d'apprendre que c'est un bonheur, parce que parfois, c'est quand même aussi un chemin de croix. Mais justement, alors, vous semblez dire que le... Vous parlez beaucoup du sens, en fait, que ça donne à la vie, à la fois d'éduquer des enfants et de les regarder dans leur individualité. Quelle place donnez-vous, parce que vous le dites dans le livre, mais de manière peut-être plus en filigrane que de manière très directe, quelle place, en fait, accordez-vous justement à la spiritualité au sens large dans l'éducation des enfants, et quelle est l'importance de cet enseignement spirituel, à la fois dans votre expérience de père et aussi d'expérience en tant que thérapeute dans cette éducation, sachant que, justement, j'ai lu une étude fort sérieuse menée par les Américains, comme ils savent les faire, dans laquelle ils semblent démontrer qu'ils ont fait des mesures, tout un questionnaire. Le résultat, c'est que les enfants, les adultes, et les jeunes adultes et les adolescents qui se disent le plus heureux sont aussi ceux qui disent qu'ils ont reçu un sens à leur vie d'une façon spirituelle. C'est-à-dire qu'ils disent quand leur vie a une orientation spirituelle, dans le sens où ça a un sens, justement, tout ça a un sens, eh bien ils se sentent, et c'est mesurable, plus heureux que les autres enfants. Y compris que les autres enfants qui ont reçu une éducation religieuse, mais pas habitée de ce sens spirituel. Donc voilà, en partant de cette étude, je voudrais que vous me parliez que vous nous disiez, en fait, dans votre expérience, quelle est l'importance du spirituel dans l'éducation des enfants ?
Bah, toujours selon ce principe de se laisser guider par son enfant. Je crois qu'aucun parent ne fera l'économie de l'expérience, un jour ou l'autre, que son enfant lui pose des questions qui sont d'ordre existentiel, spirituel, sur le sens de la vie, ne cherche à partager aussi sur des expériences qui sont des expériences de l'intériorité. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est une dimension de l'être humain. Notre civilisation a eu tendance à la nier. Peut-être qu'elle la redécouvre actuellement. Mais c'est une expérience de l'être humain et tout être humain fait des expériences spirituelles et les enfants font des expériences spirituelles. Tout enfant, à mon sens, a un vécu spirituel et il a donc le besoin de pouvoir le partager avec ses parents parce qu'il a besoin de la mettre en mots, il a besoin de lui donner sens et puis il a besoin aussi de ne pas être seul avec cette expérience. Donc pourquoi un enfant avec qui un échange spirituel est possible est plus heureux? Tout simplement parce qu'il n'est pas condamné à la solitude par rapport à ses expériences. Or, un enfant qui est condamné à la solitude par rapport aux expériences spirituelles qu'il peut vivre, eh bien, il finit par les refouler. Il finit par les nier et lui-même, en tant qu'adulte, sera peut-être peu capable de partager avec ses propres enfants. Là, il y a une transmission généalogique négative. Donc, moi, personnellement, j'ai eu des échanges extrêmement spirituels avec mes deux enfants dès leur plus petite enfance. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Père sur ma relation à mon fils et comment je suis devenu père, dans lequel je raconte de nombreuses expériences tout à fait saisissantes que j'ai eues, où mon fils a été vraiment... je l'ai senti traversé par des choses qui sont vraiment d'ordre transcendante. Certaines de ses paroles, alors qu'il avait moins de 2 ans, par exemple, étaient des paroles qui venaient d'ailleurs. Hein. Et y a tous les enfants, de temps en temps, vivent depuis un plan qui est différent. Mais encore faut-il savoir l'entendre. Beaucoup de parents ne font pas attention, tout simplement.
Mais la difficulté, je me rends compte, je reçois beaucoup de mails, de réflexions de parents à ce propos-là, c'est la difficulté de transmettre des réponses spirituelles au-delà de la religion. Parce que beaucoup sont issus d'une religion, qui veulent dépasser un petit peu, et donc ils ont beaucoup de mal à voir qu'est-ce qui pourrait être des réponses à la question de est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, est-ce qu'on est immortel ou pas, comment essayer de donner une signification ou un sens à sa vie. Et ces questions-là, elles sont très souvent liées, évidemment, à une dogmatique, à toute une réponse insérée dans une tradition. Donc moi, c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que j'ai fait mon dernier livre, L'âme du monde, pour transmettre les clés d'une sagesse universelle. Mais c'est très difficile de pouvoir faire ce travail pour des parents qui n'ont pas forcément lu tous les philosophes du monde, de trouver quelles sont les grandes réponses spirituelles aux questions que leur posent les enfants, qui sont des questions extrêmement directes. Vous en savez quelque chose l'un et l'autre. Il vous pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc. Et là, qu'on ne s'adosse pas à une tradition particulière, ce n'est pas facile de répondre.
Oui, mais les enfants n'ont pas besoin de réponse. Ils ont besoin d'être accompagnés dans leur questionnement. Et c'est beaucoup plus difficile, d'ailleurs. Parce que donner une réponse, ce n'est pas difficile. Mais accompagner quelqu'un dans son questionnement, ça veut dire se laisser soi-même travailler par ce questionnement. C'est-à-dire, c'est laisser l'enfant réveiller en moi la partie de moi qui est en questionnement, donc qui est en quête, qui est en désir. Et cela peut se faire d'une façon un peu inconfortable, parce que, tout simplement, souvent, on a refoulé ces questions-là.
On ne sait pas soi-même.
Mais oui. Donc, la grande question de l'éducation, au fond, sur ce point, mais comme sur tous, c'est est-ce que j'accepte de me laisser réveiller par mes enfants ? Et au niveau spirituel, si je refuse de me laisser réveiller par mes enfants, je vais les endormir. Mais c'est pareil à tous les niveaux. Au niveau de l'énergie physique, par exemple, si je dis à mon enfant tu es fatigant, au lieu de prendre conscience que c'est moi qui suis fatigué, eh bien, je vais éteindre progressivement son énergie plutôt que de ranimer la mienne. Et à tous les niveaux, c'est ça. Soit je fais de l'enfant un maître de vie tout en lui enseignant le monde, soit je laisse s'éteindre progressivement en lui la vie sur le modèle de l'adulte que je suis devenu. Donc, est-ce que j'éteins l'enfant ou est-ce que je me laisse réveiller par lui ? Voilà la grande question. Et se laisser réveiller au niveau des questions existentielles qui travaillent tout être humain, c'est pas toujours évident, mais c'est une opportunité merveilleuse.
Oui, mais alors là, justement, j'ai eu une difficulté en vous lisant. C'est que, évidemment, ça paraît de bon sens ce que vous dites, c'est-à-dire aussi accompagner ce questionnement, être soi-même questionné par l'enfant. Mais néanmoins, aux parents aussi, la tâche d'apprendre. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une position, si j'ose dire, de maître, avec tous les guillemets qui s'imposent, évidemment. Nous avons quand même à transmettre à nos enfants. Peut-être qu'ils nous enseignent un certain nombre de choses, mais fondamentalement, il faut quand même qu'on leur transmette quelque chose. Et toute la difficulté est là, c'est comment leur transmettre, y compris des choses dans lesquelles on croit. Je veux dire, après tout, des parents qui sont croyants, ils sont en droit de dire à leurs enfants, voilà moi ce que je crois, et leur transmettre une religion, que Dieu existe, qu'il y a une vie après la mort,
ou pas.
Ou le contraire, d'ailleurs. En tant que parent, cette transmission se fait, cet enseignement se fait. Après tout, l'enfant est quand même un être en devenir, qui doit être nourri. Alors comment articuler ça avec l'écoute dont vous faites finalement l'essentiel de votre pratique de l'éducation ?
La base pour moi c'est l'écoute au sens où percevoir qui est cet enfant, ça permet de s'adapter, de s'ajuster à l'être unique qu'il est, donc de lui donner une éducation qui est bonne pour lui. Pas selon des principes généraux, mais une éducation bonne pour lui. À partir de là, vous dites qu'on est en position de maître par rapport à l'enfant, d'accord, mais je dirais que l'enfant est lui aussi en position de maître par rapport à nous. Et que c'est un échange, c'est-à-dire que nous, on a une compétence en tant qu'adulte, c'est le monde. On connaît le monde, enfin plus ou moins bien, mais on est censé connaître le monde. Comment il fonctionne, les conventions sociales, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, etc. Le monde aussi, toutes les connaissances qui sont liées au monde, tout ce qu'on peut apprendre à un enfant. Mais lui, il est maître dans une autre dimension, c'est la vie. Quand vous prenez le niveau d'énergie d'un enfant de 2 ans, par exemple, comparé au niveau d'énergie d'un adulte de 35, vous avez une énorme différence. C'est-à-dire que l'enfant peut enseigner des choses à l'adulte. Et un adulte qui ose s'aligner sur le niveau d'énergie d'un enfant, jouer avec lui, être vraiment dans l'échange, eh bien, il va gagner en vie, en vitalité, en joie de vivre. Un enfant est un maître du désir. Un enfant de 2 ans, il est sans cesse en train d'aller vers des expériences nouvelles. Il cherche une expérience toujours renouvelée de lui-même en allant à la rencontre de l'autre, de choses nouvelles, de choses différentes, etc. Ça, c'est le désir. Il aspire à toujours manifester l'être unique qu'il est. Dès qu'on lui donne un crayon, il commence à créer des choses que les vrais artistes reconnaissent comme étant des chefs-d'œuvre. Picasso disait, j'ai mis 30 ans pour apprendre à dessiner comme un enfant. Et donc, l'enfant peut nous enseigner la vie, et je dirais que pour l'éduquer d'une façon correcte, c'est-à-dire qu'il corresponde à ses besoins, et pour être heureux dans l'éducation, il s'agit d'accepter qu'il soit notre maître dans une certaine dimension de l'existence. Et à ce moment-là, lui-même acceptera que nous soyons le sien dans une autre dimension de l'existence. C'est un échange.
Pour revenir à la question, la deuxième partie de la question d'Elie Anvar, qui est quand même extrêmement importante, les enfants posent des questions existentielles, effectivement, du type, est-ce que Dieu existe ou pas ? Vous avez des parents qui ne sont pas croyants qui vont répondre, je crois que non. Vous avez des parents qui sont croyants qui vont répondre, je crois que oui. J'imagine que des parents sont obligés de transmettre aussi leurs croyances, ce à quoi ils croient, ce à quoi ils sont arrivés, quitte à ce que l'enfant, ensuite, à partir de son propre cheminement, fasse un point de vue personnel. Est-ce que vous vous dites, non, il ne faut absolument pas transmettre ses croyances, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là face à ces questions ?
Ah ben moi, je pense que c'est très bien de transmettre. On est là pour transmettre.
Donc, y compris ses croyances.
Y compris ses croyances. Simplement, comment on va le faire,
voilà, comment le faire en respectant la liberté de l'enfant. Et c'est vrai qu'il y a la foi en Dieu, mais peut-être la question la plus frappante, c'est quand il y a un deuil dans la famille. Et oui. Que l'enfant vous dit, où est partie grand-mère ? Et là, la réponse que vous allez lui donner, elle peut changer la direction de sa vie, de manière radicale. Oui, comment lui répondre, tout en respectant aussi sa liberté ?
Je crois qu'être pleinement soi-même, c'est ce dont l'enfant a besoin. Il a besoin que ses parents soient pleinement eux-mêmes, mais sans forcément prétendre être plus qu'eux-mêmes, c'est-à-dire sans présenter forcément ce qu'ils croient, ce qu'ils ressentent vrai, comme étant la vérité de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire, moi je ressens ça, et puis le dire avec toute sa conviction, toute la puissance de sa conviction, tout en laissant la question ouverte, en disant qu'il y a d'autres personnes qui pensent différemment, etc., etc. Mais toujours en fonction de l'enfant. Et ce dont l'enfant a besoin, c'est que dans cette transmission, eh bien, le parent se laisse travailler par les questions qu'il pose. C'est-à-dire que, en dehors d'un cas comme le deuil, si je transmets mes convictions spirituelles ou religieuses à mon enfant, il va les mettre en question. Est-ce que j'accepte cette mise en question ? C'est ça la difficulté. Si j'accepte cette mise en question, alors la transmission sera positive. Je vais me laisser travailler par l'enfant comme je vais lui demander de se laisser influencer par ce que je lui dis. Et à ce moment-là, c'est une interaction et l'enfant va être en confiance là. S'il sent qu'il a une action sur le parent, alors il accepte que le parent ait une action sur lui. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Il y a une relation de confiance qui naît. Mais si on voit trop de parents, j'en suis désolé, mais sur des questions, même des questions très triviales, il y a des âges où les enfants multiplient les pourquoi. Et c'est un vrai besoin, c'est pas pour embêter l'adulte. Ça embête l'adulte, hein, parce que c'est très inconfortable. Mais pourquoi ne pas se laisser travailler par tous ces pourquoi ? C'est là, l'enfant est un maître en philosophie.
C'est la question de Fernand Reynaud. Papa, pourquoi les océans, ils débordent jamais ? Et il répond, et les éponges, qu'est-ce que t'en fous ?
Allez mon petit loup, vas-y. Je suis le loup sauvage, avide et marginal. Je suis la bête fauve, méchant animal. L'homme est un loup pour l'homme, et c'est lui qui le dit. Je suis celui qui hurle à l'orée de vos nuits. Je suis celui qui rôde, celui qui fait peur. Celui qui fait trembler, et ta mère et ta sœur. Des nuits pleines de cris, de bruit et de fureur. Au plus noir de tes songes, au plus noir de ta vie. Je fais peur aux bergers, aux fragiles, aux petits. Car je réveille en eux le souvenir d'errance. D'anciennes folies dans les steppes immense. Quand je quitte les boîtes, tu fermes ta maison. Mais tu m'écoutes hurler avec de grands frissons. Je suis le loup rebelle qui se tient tapis. Tout au fond de ton cœur, tout au fond de ta vie. Comme une aube de neige, innocente et cruelle. Comme un rêve de vie, plus sauvage et plus belle. Je suis le méchant loup des poètes et des fous. Je suis celui qu'on chasse et dont tu es jaloux. Vous m'avez pourchassé depuis 100 000 vies.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie de Denis Marquet à propos de son livre Nos enfants sont des merveilles aux éditions Nil. Elie Anvar.
Oui, alors ce que vous disiez sur l'interaction entre enfants et parents qui deviennent tour à tour maîtres et disciples, si je vous ai bien entendu, ça se travaille aussi au niveau de l'autorité. En somme, ce que vous dites, c'est qu'il faut s'éduquer soi-même. D'abord et avant toute chose, et ça éduquera naturellement nos enfants. Et c'est ce que vous dites aussi sur la question de l'autorité, c'est-à-dire qu'en fait, les parents doivent exercer l'autorité, mais ils doivent aussi sans cesse s'exercer à se détacher, à la fois de du fantasme de toute puissance, qui est le leur, avant d'être celui de leur enfant, et à la fois de ce qui les lie à leurs enfants sur un plan émotionnel plus profond, c'est-à-dire se détacher du résultat, presque, de leur éducation.
Oui, c'est capital d'être détaché de tout résultat, puisque le résultat, on ne le connaît pas. Si l'éducation a pour but de laisser se développer un être unique, bah, on ne sait pas au service de quel être on se met en l'éduquant. Mais quand, inversement, on se met en réceptivité par rapport à l'être unique qu'est l'enfant et par rapport à ses besoins et l'évolution de ses besoins, à ce moment-là, on va s'apercevoir qu'il a besoin d'autorité. Il a besoin d'autorité, justement, pour poser des limites à la pulsion à l'intérieur de lui et pour pouvoir vivre en société de façon satisfaisante, c'est-à-dire sur la base du respect. Et le respect, c'est une notion tout à fait importante, c'est la conscience de la limite entre soi et l'autre. Cette conscience-là, l'enfant, il ne l'a pas, l'adulte doit lui enseigner. Et c'est quelque chose dont il a besoin, donc il est très réceptif à cet enseignement. Mais pour lui enseigner, encore faut-il le respecter aussi, c'est-à-dire lui montrer soi-même cette limite entre soi et l'autre. Donc l'autorité, c'est un besoin absolument capital, et j'en parle beaucoup dans Nos enfants sont des merveilles. C'est tout à fait essentiel, mais toujours au service de cet être unique et de la vérité de cet être qu'on a en face de soi.
Voilà, parce que je voulais quand même que ce soit clair que ce que vous dites, c'est pas que l'enfant doit faire ce qu'il veut et que nous, on doit... C'est nous qui devons être éduqués par
l'enfant. Hein.
On est rassurés quand même.
Tout va bien. Voilà. Vous pouvez dormir en paix.
Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que parce que c'est délicat. Et alors, je reviens à Rousseau. Souvent, on a mal lu Rousseau. On a cru que Rousseau défendait l'enfant roi parce qu'il combattait l'arbitraire de l'autorité. Pas du tout. Rousseau dit qu'il faut de l'autorité, mais une autorité qui soit à la fois dans le sens de l'intérêt de l'enfant. Et en même temps, qu'il soit une autorité détachée, pas une autorité, justement, du tyran parent. Il faut que personne ne soit tyran dans l'affaire, ni l'enfant, ni le parent. Et s'il nous reste quelques minutes, je vais justement vous lire ce tout petit texte de Rousseau. À nouveau dans l'Émile, je recommande la lecture de l'intégralité de l'Émile à nos auditeurs. C'est difficile de faire des choix. C'est donc un passage sur l'autorité. L'homme sage s'est resté à sa place, mais l'enfant qui ne connaît pas la sienne ne saurait s'y maintenir. Il a parmi nous 1000 issues pour en sortir. C'est à ceux qui le gouvernent à l'y retenir, et cette tâche n'est pas facile. Il ne doit être ni bête ni homme, mais enfant. Il faut qu'il sente sa faiblesse, mais non qu'il en souffre. Il faut qu'il dépende, et non qu'il obéisse. Il faut qu'il demande, et non qu'il commande. Il n'est soumis aux autres qu'à cause de ses besoins et parce qu'il voit mieux que lui ce qui lui est utile, ce qui peut contribuer ou nuire à sa conservation. Nul n'a droit, pas même le père, de commander à l'enfant ce qui ne lui est bon à rien.
Cette émission touche à sa fin et je reçois Marie Dalquier. Bonjour Marie, pour l'agenda culturel.
Bonjour. Alors, moi, je vais vous parler du site de Denis Marquet. Alors, Marquet, ça s'écrit MARQUET.com, denismarquet.com. C'est un site alors qui n'est pas destiné uniquement aux enfants, à moins qu'on considère que nous soyons des enfants puisqu'on passe notre vie à grandir. C'est un site, moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, vous affichez clairement les choses quand on arrive dessus. Vous notez que c'est un site qui n'est pas fait pour nous laisser intacts. Alors, dès le départ, on comprend qu'on n'est pas n'importe où. Et puis, vous affichez clairement aussi votre positionnement, puisque vous mettez en parallèle le fronton de ce qui est écrit sur le fronton de l'école philosophique de Platon, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et que sur votre site, sur la home de votre site, vous nous mettez que nul n'entre ici sans son cœur et ses tripes. Donc, dès le départ, on a bien compris qu'on est sur un site internet, mais qu'on n'a pas à avoir honte que l'école philosophique n'est pas loin. Et puis ensuite, vous nous proposez alors une première expérience en nous proposant votre biographie en trois versions. La version gloire, la version lose et la version vérité. Alors là, on a bien compris que vous aviez l'intention de tout déconstruire, même l'interlocuteur qui nous parle. Alors, c'est assez intéressant parce qu'en fait, l'idée de fond, c'est de nous dire que la vérité intérieure, elle est souvent au-delà du récit que l'on a de notre vie. Alors, effectivement, quand on lit ces trois biographies, on ne sait plus qui vous êtes. On ne sait donc plus où on est. Donc, on n'a plus le choix, on est obligé de se laisser aller à notre propre impression à la lecture de votre site. Alors ensuite, vous nous proposez un blog que vous appelez Dialogon. Et dans ce blog, en fait, ce sont des questions existentielles d'ordre assez général, la recherche du grand amour, le pardon. Notamment, il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur finalement la recherche du grand amour. Et puis, justement, sur Internet, c'est là où on recherche cet amour. Puis finalement, on n'arrive pas à le trouver mieux qu'ailleurs. Alors, vous répondez à toutes ces questions. Et moi, j'aime bien vos réponses parce que vos réponses, elles sont clairement sur une voie, en tout cas dans un vrai dialogue philosophique, parce que vous appuyez et sur votre expérience personnelle, on l'a entendu, qui est vraiment le fruit de votre travail. Et on n'est pas du tout dans une connaissance philosophique. On est vraiment dans un dialogue philosophique que vous exercez vraiment avec les gens qui sont sur ce blog. Et je trouve ça assez agréable. Et puis sinon, ensuite, on a aussi vos activités. Alors, très brièvement, on vous a introduit en disant que vous aviez un cabinet de philosophe-thérapeute. Alors peut-être en deux mots quand même nous dire ce que c'est.
C'est un travail sur soi qui n'est pas centré sur la dimension psychologique ou affective, mais avant tout sur la dimension existentielle, c'est-à-dire la relation que chaque être entretient avec le sens de sa vie. Sachant que, pour le dire rapidement, ma vie a du sens si ma vie exprime mon être, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ma vérité. Il s'agit de trouver la vérité qu'on est, par-delà, effectivement, tous les récits conditionnés qu'on peut faire sur soi-même, qui composent notre identité convenue, mais peut-être pas l'être qu'on est en vérité.
Alors justement, pour avoir toutes les informations sur vos différentes activités, notamment celle-ci, il suffit simplement de vous écrire sur votre site et puis on rentre dans votre fichier et là vous allez nous envoyer une sorte de newsletter qui nous permettra d'être informés. Alors il y a effectivement ce cabinet et puis il y a aussi des groupes de parole. Alors il y a un très beau groupe de parole qui est un groupe qui est basé sur la parole plutôt vers une voie christique, mais laïque. C'est-à-dire que les participants vont partager leurs questions existentielles, mais à la lumière des enseignements de Jésus. Donc on est toujours sur cette idée socratique de la philosophie, que vous continuez aussi dans vos groupes de parole. Et puis vous allez jusqu'à faire des voyages initiatiques aussi dans les lieux saints, comme Jérusalem ou la Mer Morte. Et puis il y a un très beau groupe de parole aussi, moi je trouve, sur la puissance du féminin, parce que vous expliquez qu'effectivement notre société est basée sur un patriarcat et que finalement l'homme s'est aussi approprié la puissance du discours sur la féminité et qu'il faut aussi ce discours-là le redonner aux femmes. Et donc à travers ces groupes de parole, les hommes, les femmes partagent leurs peurs et c'est aussi aux femmes d'enseigner le féminin. Je trouve que c'est une très belle voie. Voilà, sur denismarquet.com, on retrouve tout ça.
Merci Marie, merci beaucoup Denis aussi d'être venu nous parler de votre livre, de ces enfants qui sont des merveilles.
Merci.
Cette émission s'écoute en ligne pendant 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. La semaine prochaine, Saint François d'Assise.